Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, podcast en partenariat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. On parle du télescope spatial Herschel. D'ailleurs, Herschel, William Herschel, Marc Sauvage, c'est un personnage emblématique pour l'astronomie professionnelle d'amateur. C'était qui ?
Alors, William Herschel, c'est un Allemand, hein, à l'origine, qui est naturalisé anglais. C'est pour ça qu'il s'appelle William. Enfin, si on pose la question aux Allemands, ils vont plutôt l'appeler Wilhelm. Et il est très connu parce que c'est le découvreur de la planète Uranus. Il a aussi produit pas mal de catalogues du ciel, mais là, il ne faut pas oublier sa sœur, Caroline, qui était une observatrice sans doute au moins aussi bonne que lui. Et c'est un compositeur de musique, musique qui ne mérite peut-être pas totalement d'être retenue, qui était un peu anecdotique. Et puis, surtout, dans ce qui nous occupe, c'est le découvreur du rayonnement infrarouge.
Alors, on va y arriver, mais juste pour s'arrêter une seconde sur l'observateur, on parle du télescope Herschel, hein, y compris au sol, on considère que c'est un des créateurs de l'astronomie stellaire, le premier à avoir vraiment fait des observations de nébuleuses, d'étoiles, je pense aux étoiles doubles en particulier, il a marqué l'astronomie en ce sens-là aussi.
Bah c'est quelqu'un, d'abord il met en place... Des techniques d'observation, des télescopes qu'on peut considérer vraiment comme des télescopes modernes. Enfin, faut voir les machines qu'il a construites pour faire ces observations. Donc, c'est quelqu'un avec des objectifs et des réalisations qui sont impressionnantes pour l'époque.
Au 18e.
Ouais, donc, c'est véritablement, je dirais, un des grands astronomes qu'il faut retenir à la fois la construction des outils pour l'astronomie, et la réalisation et la captation d'informations sur l'univers.
Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui de donner le nom de William Herschel au télescope qui va partir observer les populations d'étoiles, leur naissance, les conditions de leur apparition?
Alors c'est un fait récent de donner des noms aux satellites. Ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on le fait. Alors dans son cas précis, Herschel, c'est un satellite qui doit détecter du rayonnement qu'on appelle infrarouge et submillimétrique, donc des longueurs d'onde qu'on ne peut pas voir et qui se situe en deçà de ce qu'on est capable de détecter avec l'œil. Et c'est Herschel, le premier, qui a mis en évidence l'existence de ce rayonnement. Et c'est intéressant parce que cette expérience qu'il fait, c'est vraiment une expérience de recherche fondamentale au sens pur. C'est-à-dire qu'à son époque, on connaît le rayonnement visible, on a déterminé le spectre du rayonnement visible, donc on sait que la lumière visible se décompose en éléments, en longueur d'onde, et lui se pose la question que se pose un chercheur fondamental même encore aujourd'hui, c'est voilà ce que je connais, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre plus loin que ce que je connais? Et ça c'est la question de recherche fondamentale. Il se dit pas encore qu'est-ce que je pourrais faire du rayonnement qui est à côté, il ne sait pas qu'il existe. Et il construit quelque chose pour savoir si, à côté de ce qu'il connaît, il y a d'autres choses. Et à l'époque, on a décomposé la lumière par le biais de prismes. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a observé qu'avec de la lumière visible, on peut chauffer un thermomètre. Eh bien, il va placer un thermomètre, il va décomposer de la lumière et placer un thermomètre là où il ne voit plus rien. Et il s'aperçoit que même là où lui ne voit plus rien, le thermomètre réagit. Il enregistre la présence de quelque chose qui va appeler d'un terme qui est assez joli, hein, qui s'appelle chaleur radiante, chaleur radiative, et que nous aujourd'hui on appelle rayonnement infrarouge parce qu'on sait qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans la nature de ces deux choses, entre le rayonnement visible et le rayonnement infrarouge, c'est du rayonnement électromagnétique. Mais je trouve que c'est très beau, d'abord ça justifie d'avoir appelé ce télescope comme ça, mais en plus c'est très beau parce que c'est vraiment une démarche de recherche fondamentale. Voilà ce que je connais et je cherche à savoir, sans préconception sur ce que je vais en faire, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ce que je connais. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment quelqu'un dont il faut se souvenir et je suis assez heureux que ce soit son nom qui soit attaché à ce télescope-là.
Ben c'est un bel hommage que vous lui rendez. L'astronomie infrarouge existe, hein, déjà depuis de nombreuses années, en tout cas depuis que Herschel a trouvé ce thermomètre qui permet de mesurer l'émission infrarouge. Quel type d'objet, Vincent Minier, l'astronomie infrarouge observe-t-elle et en quoi est-elle caractéristique?
Alors, l'astronomie infrarouge submillimétrique va surtout s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler les objets froids de l'univers. Mmh. Donc quand on dit froid, on va donner un ordre de grandeur en termes de degrés Celsius, on est aux alentours de moins de 150 degrés Celsius, voire même encore plus bas. Mmh. Et ces objets froids sont généralement associés à la jeunesse ou à la précocité dans un processus de formation d'objets. Alors, on a différents types d'objets, ça peut être les étoiles. Donc, on s'attaque là à la formation des étoiles et, je dirais, aux phases de gestation des étoiles. On peut également regarder ce qu'on appelle le milieu interstellaire, c'est-à-dire ce gaz très raréfié qu'il y a entre les étoiles dans les galaxies, un gaz très peu dense, mais qui a la particularité d'être mélangé avec ce qu'on appelle les grains de poussière, donc des petits solides, qui sont très très froids également et qui vont émettre, briller dans l'infrarouge submillimétrique. Donc étudier finalement le milieu interstellaire est possible à travers l'étude de ces petits grains de poussière et en déduire des propriétés telles que la densité, la température, et essayer de comprendre comment ce milieu interstellaire va se rassembler pour à la fin former des étoiles. Et enfin, je dirais, il y a une troisième grande catégorie d'objets qui, c'est les galaxies dans leur entité, je dirais, à les galaxies très lointaines. Donc là, on les appelle des galaxies à grand décalage spectral, c'est-à-dire vraiment des galaxies dans l'univers lointain. Et Herschel va nous permettre finalement de compter, je dirais, ce nombre de galaxies parce que elles-mêmes forment beaucoup d'étoiles. La formation stellaire induit une émission dans le submillimétrique infrarouge. Et là, au lieu de regarder des régions de formation d'étoiles indépendamment comme dans notre galaxie, on va les prendre dans leur ensemble et on va pouvoir étudier grâce à ça les propriétés des galaxies très lointaines et en déduire, par exemple, des taux de formation d'étoiles dans l'univers jeune et les comparer à ce qu'on voit aujourd'hui dans notre galaxie, par exemple.
C'est ce qu'on appelle une autre fenêtre en astronomie, c'est ça?
C'est une autre fenêtre. Je dirais, c'est une fenêtre qui existait auparavant, qui avait été déjà sondée. Alors, peut-être pas jusqu'au submillimétrique dans le sens inférieur à 1 millimètre, mais qui avait été sondée dans ce qu'on appellerait plutôt l'infrarouge lointain, vraiment, donc avec un autre télescope spatial qui s'appelait IRAS, mais qui avait une résolution, je dirais, angulaire relativement pauvre par rapport à ce que va faire Herschel. Et là, le gain pour l'astronomie submillimétrique avec Herschel, c'est vraiment la taille du télescope, 3,50 m, qui va nous permettre à la fois d'améliorer la sensibilité et également d'améliorer la résolution angulaire, le pouvoir de résolution à ces longueurs d'onde.
Quand vous dites submillimétrique, il faut comprendre très froid.
Alors, tout à fait, oui. On peut imaginer, l'infrarouge n'est pas lié aux objets chauds, contrairement à ce que parfois on peut penser, en regardant certains films, en regardant par exemple des militaires, regarder avec des caméras infrarouges thermiques, des corps qui se baladent dans la nuit. L'infrarouge, c'est vraiment une façon de détecter ce qui est plus froid que dans le visible. Donc plus on se décale dans l'infrarouge, plus on observe quelque chose de froid. D'où l'expérience d'Herschel qui, en prenant son prisme, décompose la lumière tel un arc-en-ciel. Au-delà, en deçà, je dirais, du rouge, ne voit plus rien, mais son thermomètre détecte une lumière invisible, une lumière très faiblement énergétique, donc finalement qui est liée à un phénomène relativement froid. Il y a peu d'énergie, c'est pour ça que notre rétine n'a pas su vraiment imprimer cette énergie, n'a pas pu l'imprimer, et donc nous ne pouvons pas, avec notre œil, voir cette lumière. Pourtant, elle existe. Elle est liée donc à des objets qui émettent peu, donc qui sont très froids.
Alors, vous n'êtes pas préposé à l'histoire, hein, Marc Sauvage, mais puisque on parlait d'Herschel et de ce thermomètre particulier qui permet de mesurer l'infrarouge, il y a un inventeur du thermomètre, entre guillemets, que vous allez utiliser sur Herschel. Et là aussi, on remonte dans le passé, hein, 1881, c'est un certain monsieur Langlais qui invente le bolomètre. Alors, qu'est-ce que c'est que le bolomètre et qui est ce monsieur Langlais?
Alors, le bolomètre, ça veut dire mesure de radiation, donc ça dit bien ce que c'est. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très, très particulier. Ça exploite une propriété des corps, corps solides, qui, s'ils sont exposés à du rayonnement électromagnétique, de la lumière, ils vont en absorber une partie par un processus qu'on n'a pas besoin de connaître particulièrement, et ils vont s'échauffer. On fait tous l'expérience que quand on a posé un objet au soleil et qu'on le reprend, il est plus chaud qu'avant. Il a donc absorbé une partie de l'énergie à laquelle il était exposé. Et l'idée de Langlais, donc, qui était un Américain qui était directeur du Smithsonian Institute, enfin fondateur puis directeur du Smithsonian Institute, l'idée c'est de reprendre en fait un peu l'expérience de Herschel, qui lui, c'est là aussi qu'on voit cette espèce de transition recherche fondamentale, recherche appliquée. Herschel, il utilise un thermomètre pour voir qu'il y a quelque chose au-delà du rayonnement visible, et Langlais, il se dit, d'une certaine façon, bon, maintenant que je sais qu'il y a quelque chose, est-ce que je peux pas utiliser ce même principe pour mesurer cette chose? Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va dire, bon, plutôt qu'un thermomètre, parce que c'est pas très précis à l'époque, il va prendre des résistances électriques qui ont la propriété de voir leur valeur de résistance varier en fonction de leur température. Il y a plein de matériaux qui peuvent le faire, et dès 1880, on sait que ça, on en connaît. Et ce qu'il va faire, lui, c'est mettre deux résistances l'une après l'autre, en exposer une au rayonnement visible. En l'occurrence, à l'époque, ce qu'il cherche à faire, c'est mesurer le spectre du soleil, donc de l'étoile la plus brillante qu'on puisse trouver autour de nous, mais c'est déjà pas mal. Ce qu'il va faire, donc, c'est mettre ces deux résistances, les mettre sous tension, en éclairer une, en garder une autre à l'ombre. Et ce qu'il voit, c'est que comme il y en a une dont la résistance varie en fonction de sa température, en les mettant sous tension, le courant qu'il mesure dans son circuit va être une fonction de la température de sa résistance. Et donc il met en place un système qui lui permet quantitativement de mesurer le rayonnement. Alors son problème à lui, c'est qu'il va mesurer et le rayonnement et les propriétés de sa résistance en même temps, qui sont pas connues à l'époque. Mais tout de même, il produit avec ce système ce qu'on appelle aujourd'hui la distribution spectrale d'énergie, c'est-à-dire le spectre du soleil, alors qui ressemble pas à un corps noir comme il devrait, parce que il a pas réussi à retirer les propriétés de la résistance, mais il fait pas tellement moins que ce qu'on va faire aujourd'hui avec Herschel. Avec Herschel, le principe de bolomètre est resté le même. On utilise un corps qui a la propriété d'absorber le rayonnement et de s'échauffer grâce à cette énergie. On mesure sa température. Et en fait, la façon qu'on a encore aujourd'hui de mesurer sa température, c'est de mettre deux résistances en série. Une sur ce corps qui est thermiquement variable, et une autre qu'on va garder à l'ombre ou à une température fixe. Et on va mesurer les variations de courant ou de tension, suivant la façon dont on construit son bolomètre, en fonction du temps.
Le
principe reste exactement le même. Alors évidemment, la technologie n'a plus rien à voir. L'Anglais, son système tient sur la table, qui est ici, donc il se mesure en dizaines de centimètres, et ce qu'on va faire voler sur Herschel, c'est de la micro, voire de la nanotechnologie.
Vous réussissez à éliminer tout ce qui est bruit, tout ce qui est parasite, qui permettrait d'altérer la mesure?
Alors, on réussit... On essaye autant que faire se peut, et la meilleure technique pour faire ça, c'est de descendre très très bas en température. Et la raison principale, c'est, il faut bien se rendre compte, comme disait Vincent tout à l'heure, nous, il y a une équivalence entre la longueur d'onde d'un rayonnement et l'énergie que ce rayonnement transporte. Et plus cette longueur d'onde est grande, moins l'énergie transportée par les photons est grande. Donc nous, en travaillant à grande longueur d'onde, on travaille en fait sur des photons qui, individuellement, ont très très peu d'énergie. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut arriver à se mettre dans une situation où ce très peu d'énergie, c'est quand même beaucoup. Et la façon de faire ça, c'est de descendre la température des systèmes qu'on va utiliser. Et à la limite, en fait, quand on arrive au zéro absolu, entre guillemets, les corps n'ont plus d'énergie thermique. Donc n'importe quoi deviendrait très grand. Évidemment, il est hors de question de descendre aussi bas, c'est très très compliqué. Mais on descend tout de même à quelque chose comme, 0,3 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc des températures extraordinairement basses. Et à ces températures extraordinairement basses, le rayonnement qu'on cherche à détecter, il apporte beaucoup d'énergie, relativement parlant. Donc c'est un saut technologique majeur par rapport à ce que faisait l'Anglais qui laissait son système travailler à peu près à température ambiante. Et pour éliminer le bruit, ce qu'on fait, c'est qu'on refroidit, de telle sorte que le seul apport d'énergie qu'on ait, c'est celui du photon.
Il y a des matériaux plus sensibles que d'autres. Vous utilisez quel type de... Alors, je vais utiliser le mot métal, mais je ne sais pas si
c'est
un métal.
En fait, nous, on utilise pour la partie absorbante, on va utiliser du silicium, et ça c'est essentiellement parce qu'en fait un des sauts technologiques qu'on a fait pour cette expérience, c'est de faire des caméras dans lesquelles au lieu de construire les pixels un par un, on va directement graver par les mêmes techniques de microgravure qui existent en microélectronique, on va directement graver notre bolomètre dans une plaque de silicium. Après, on va le recouvrir de métaux pour favoriser l'absorption. Mais le matériau absorbant, c'est du silicium. Et puis après, on va implanter par-dessus, par encore d'autres techniques de microélectronique, ce qu'il va nous servir de thermomètre. Donc, la question du matériau absorbant, bon, elle est importante, mais on se fixe sur le silicium parce que c'est comme ça qu'on va réussir à construire notre circuit. Grosso modo, une des innovations majeures qu'on a fait sur ces détecteurs, c'était d'arriver à créer ces matrices, et la seule façon de le faire, c'était d'utiliser ces technologies-là.
À quoi ressemblera le résultat en final? Et on est habitué à avoir des photos du ciel avec les télescopes spatiaux. Est-ce qu'on aura une image thermique de ce que vous observez? À quoi ça ressemblera?
Je pense que si on fait bien notre travail, la réponse sera oui, ça ressemblera à une photographie du ciel faite dans des longueurs d'onde qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec une résolution angulaire qui sera effectivement moins bonne que des images type Space Telescope, mais malgré tout, l'objectif de ces instruments, c'est de faire des images. Ce sont de véritables caméras, et ça c'est la première fois qu'on va vraiment parler de caméras dans ce domaine-là. Et ces caméras, elles font des images du ciel, et les relever soit des régions de formation stellaire, soit de champs cosmologiques, prendront la forme d'images du ciel.
On a déjà utilisé, Vincent Minier, au sol, donc dans les observatoires, des bolomètres pour regarder les régions obscures, froides de l'univers. C'est, en ce sens-là, c'est pas une première.
Alors, on a en effet utilisé les caméras de bolomètres pour observer, par exemple, les régions de formation d'étoiles avec des télescopes au sol, surtout au Pico Veleta à côté de Grenade, mais dans des gammes de longueurs d'onde différentes. Il faut savoir que l'atmosphère est en pleine de vapeur d'eau. La vapeur d'eau absorbe énormément le rayonnement submillimétrique, et dont l'infrarouge submillimétrique. Donc c'est pour ça qu'Herschel est dans l'espace, pour s'affranchir de ces contraintes. Et la faible transmission de l'atmosphère à ces longueurs d'onde découpe finalement l'atmosphère en fenêtres d'observation. Donc il existe des fenêtres d'observation depuis le sol à travers lesquelles on peut observer le rayonnement cosmique, et ces fenêtres d'observation, il y en a une pas loin de 1 mm en termes de longueur d'onde, il y en a d'autres proches de 450 microns, alors que là on est vraiment dans le submillimétrique, dans le sens sous le millimètre, hein, 450 microns, on est à 0,45 mm, mais en dessous de 450 microns, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment dans le domaine Herschel, ces fenêtres, la transmission, c'est-à-dire la faculté, le pourcentage de rayons cosmiques qui va arriver au sol est très très faible. C'est-à-dire qu'on descend à des ouvertures de fenêtres de l'ordre de 20%. Donc si on ajoute à ça le détecteur, le télescope, la transmission de tous ces appareils les uns après les autres, la transmission résultante approche zéro. Donc il est inutile pratiquement d'aller observer, j'irais en deçà de 200 microns au sol, on n'a aucune possibilité. Néanmoins, on tente aujourd'hui avec les mêmes matrices, avec les mêmes technologies que celles construites pour le télescope Herschel, donc celles qui ont été construites par nos équipes, on tente de mettre ces matrices de bolomètres sur des télescopes au sol pour observer spécifiquement à 450 microns, 350 microns, voire 200 microns quelques jours par an certainement. Et les résultats ont déjà été obtenus au mois de novembre. Et finalement, je dirais que les premières cartes avec les matrices Herschel, les matrices de bolomètres sur le télescope spatial Herschel, ont déjà été utilisés sur un télescope au sol qui est à 5100 mètres au Chili, qui s'appelle APEX. Et les résultats sont relativement concluants, donc on a quand même la démonstration que les matrices, donc c'est pour l'instrument qui s'appelle PAX, hein, il y a plusieurs instruments sur Herschel, les matrices PAX fonctionnent et donc fonctionneront certainement très bien, encore mieux dans l'espace.
On a souvent utilisé l'image, Marc Sauvage, quand on parlait des télescopes refroidis dans l'espace, de bouteilles thermos, parce que c'était vraiment la cryogénie, ce sont des techniques très très spécifiques. Herschel, c'est aussi quelque chose qui est une usine à gaz froid, si je puis dire.
Ah, c'est exactement une usine à gaz froid, parce que Herschel, c'est un cryostat. À l'origine, ça devait pas être un cryostat, mais bon, maintenant c'est un cryostat. Donc, c'est-à-dire que c'est refroidi par l'évaporation de l'hélium. Donc, il y a sur Herschel environ 3 étages de température entre les détecteurs eux-mêmes qui sont donc 0,3 degrés au-dessus du zéro absolu, donc qui eux sont maintenus à cette température-là par des machines. Et cette température est absolument nécessaire à leur fonctionnement. Mais évidemment, on ne maintient à cette température-là qu'un tout petit ensemble, parce que ça coûte énormément d'énergie. Donc ces machines elles-mêmes sont refroidies à environ 2 degrés au-dessus du zéro absolu. Ça, c'est la température de l'hélium liquide dans une de ses phases. Et puis, la transition de cet hélium liquide dans une autre phase va faire un niveau de température qui est à 4 degrés au-dessus du niveau absolu. Donc là, c'est la plupart des structures des instruments sont à 4 degrés au-dessus du niveau du zéro absolu. Et en fait, l'évaporation de cet hélium qui se produit continuellement, d'ailleurs qui se produit dès aujourd'hui, puisque aujourd'hui le cryostat est en froid, et qui se produira quand le satellite sera dans la fusée, et qui se produira quand le satellite sera dans l'espace, et qui de façon ultime détermine la durée de vie, ben cette évaporation de l'hélium, ce gaz circule dans tout le cryostat pour aller refroidir toutes les structures. La seule structure qui n'est pas refroidie sur Herschel, c'est le télescope, parce qu'il fait 3,50 m, et que mettre 3,50 m dans un cryostat, ça veut dire un satellite qui fait 6 ou 7 mètres de diamètre, et qu'aujourd'hui, on ne sait pas lancer ce genre de choses. Donc, il est à l'extérieur, et il est refroidi ce qu'on appelle passivement, c'est-à-dire qu'il est mis à l'ombre, et c'est l'équilibre thermodynamique avec le vide interstellaire qui l'amène à une température qui est de l'ordre de 80 Kelvin.
Vous en êtes fiers, ce télescope ?
Bah, c'est quand même assez joli, oui, c'est joli à voir. Ouais. C'est joli à penser pour l'instant, d'ailleurs, parce qu'on ne le voit pas encore beaucoup.
Après, ce sera l'épreuve de l'espace.
Après, ce sera l'épreuve de l'espace, oui.
Merci, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, évidemment, pour un prochain épisode.